Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et Cocktail. Mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime.
Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de True Crime.
Merci d'être de retour avec nous pour un nouvel épisode.
Ça nous fait toujours tellement plaisir de vous revoir au rendez-vous. Et cette semaine, je pense qu'on mérite particulièrement vos notes 5 étoiles sur Spotify parce qu'on est toutes les deux, je dirais, à un tiers vivante. Puis je pense même que ce tiers-là, il est pas trop fort.
Il est partagé entre nous deux.
Ouais, je pense qu'on peut dire ça comme ça. De mon côté, je suis malade et je pense que ça va tout de suite donner mon moment what the fuck, je vais embarquer là-dedans. Je suis tombée malade en même temps qu'un personnage dans un des livres que je lisais. C'était tellement un drôle d'addon, mais en même temps, je pouvais encore plus m'identifier au personnage dans le livre.
C'est dommage. Calice, j'ai l'air à parler. Je trouve ça dommage drôle à quel point, souvent, la vie fait en sorte que tu peux tellement t'identifier à ce qui se passe dans ton livre, parce que ben là, ça, c'est un peu moins le fun. Là. T'aurais aimé ça pas autant t'identifier, mais là, tu t'identifies au fait qu'il est malade parce que tu tombes malade en même temps. En tout cas, je trouve ça rigolo.
Ce qui est moins rigolo, par contre, c'est ce que je pense qui va être ton moment what the fuck cette semaine.
De un, moment what the fuck, pourquoi est-ce que j'ai dit rigolo, what the fuck, on voit à quel point ça se passe pas très bien. De deux, en ce moment, moi et Jess, on record, puis j'ai des lunettes de soleil à l'intérieur parce que, roulement de tambour, j'ai une commotion cérébrale. Wouhou!
Mais la question, Noémie, est comment as-tu ta commotion cérébrale?
je rentrerai pas trop dans les détails, mais je vais vous dire que j'ai eu un accident d'auto, tout va bien. À part le fait que j'ai pas d'auto en ce moment, puis que j'ai une commotion, puis quelques bleus. Ça va super bien. Je suis en vie, puis l'autre personne va super bien aussi. Donc, c'est ça l'important. Mais c'est ça, j'ai eu un accident d'auto.
C'est drôle parce que on est deux à déjà avoir parlé de nos accidents de voiture dans nos moments what the fuck. Fait que je sais pas à quel point ça augure bien. Ça fait comme un an et demi, deux ans qu'on fait ça, puis on a chacun payé un accident de voiture. C'est pas un bon ratio, là.
Je tiens à préciser aussi que j'ai eu mon accident d'auto en revenant de ma graduation à l'école. Fait que, tu sais, quand tout va bien, ça s'arrête rapidement. Non, c'est pas vrai. Écoutez-moi pas, c'est pas vrai. Quand la vie va... Aimez la vie. Mais moi, j'ai toujours eu des bad luck avec mes autos. Justement, ma meilleure amie, elle me dit, je pense que je vais t'acheter un tank parce que je suis tannée, parce qu'il m'arrive toujours quelque chose. Puis le trois quarts, c'est pas de ma faute. Tu sais, ça m'est arrivé comme que c'était de ma faute une ou deux fois, mais la majorité, c'était pas de ma faute. Puis oui, j'ai eu plus d'accidents que ça et je me suis fait ramasser par un 10 roues sur l'autoroute pendant que moi, je faisais rien. J'attendais que le trafic passe, je me suis fait ramasser. Ah, mon Dieu! Ouais, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe. Je sais pas. Bref, c'est ça. Comme vous pouvez voir, je suis une femme de peu de mots. Je crois que c'est la commotion qui me fait un peu aller comme ça. J'ai même pas d'alcool dans le corps.
Non, puis parlant d'alcool, maintenant qu'on a dit nos deux, t'avais-tu fini? Je peux te rebondir sur l'alcool ou tu voulais continuer, toi?
Non, je trouve que c'est assez, je l'ai vécu, j'ai pas envie d'en parler plus.
Bon, parfait, allons-y, rebondissons sur l'alcool. On a décidé de vous présenter une recette que j'ai bu personnellement. Fait que je peux vous dire qu'est-ce que ça goûte et qu'est-ce qu'on en pense, mais considérant notre état, on est à notre bonne vieille amie, l'eau, ou comme un client m'a déjà piégé dans un ancien restaurant où je travaillais, un bon Saint-Laurent frappé sur glace. J'ai tellement l'air conne à googler la recette puis à comme pas trouver, puis là, monsieur, je suis pas sûre d'être certaine c'est quoi le cocktail que vous voulez, puis était comme un verre d'eau, ma bonne chum.
C'est tellement une joke de papa classique, on dirait, mais pas classique parce que je l'ai jamais entendu, mais ça fait partie des classiques, on dirait, c'est une joke vraiment papa, je trouve.
Ouais, on le salue.
Fait qu'en tout cas, Jess, qu'est-ce qu'on ne boit pas aujourd'hui, mais que tu as déjà bu? Ah, voyez-vous, c'est moi qu'il faut qu'il le dise, c'est vrai. Aujourd'hui, on vous propose une margarita spritz! Vous allez avoir besoin, dans un shaker, d'un once d'apérol, deux onces de tequila, un once de triple sec, un once de jus de lime, un once de jus d'orange pressé, et vous allez...
Shake, shake, shake!
Avec de la glace, bien sûr, n'oubliez pas, très important. Vous allez tremper les bords de votre verre dans du jus de lime, puis après dans du sel, et ben vous allez verser le tout dans votre verre. That's all basketball. Fait que Jess, ça goûte quoi ce drink-là?
Mais c'est tellement plate à dire, mais ça goûte vraiment comme un mélange entre un apérol spritz puis une margarita, c'est juste que ça pétille pas. Fait que c'est comme une margarita avec un petit peu plus d'amertume. Je suis vraiment contente d'avoir ajouté le jus d'orange fraîchement pressé parce que je pense que sans, ça aurait vraiment été full amertume, là. Parce que l'apérole, c'est quand même assez, tu sais. Puis après ça, le jus de lime, si tu mets pas ton sirop simple, ça va plus, là. En plus, on l'a même pas dit. On l'a même pas dit dans la recette. Mes bons amis, rajoutez une bonne cuillère à table de sirop simple dans votre recette parce que il y a beaucoup de choses avec beaucoup d'amertume. J'essaie de trouver un autre mot, là, mais écoutez, pas de vocabulaire aujourd'hui, ça va être ça.
Je me demande juste, est-ce que ça fesse plus qu'une margarita et un spritz pourraient fesser séparément, vu que là, on combine les deux ensemble? À quel point est-ce que ça nous rentre dedans, ce drink-là?
Ben, je me souviens que j'étais pas mal... Je sentais le cocktail après l'avoir terminé, là. Donc, je vais dire que ça fesse.
Fait que c'est quoi ta note?
Oh, moi, hein, faut que je donne. Aïe, aïe, que je m'excuse, les gens l'écoutent. Ça va bien aller parce qu'on a déjà rédigé le script avant de devenir cérébralement morte. Fait que ça va bien aller. Oh my god, je me suis presque étouffée en respirant.
Voyez-vous jusqu'où on va pour être là pour vous? On s'oublie nous-mêmes. OK, tout le monde? Aimez-nous.
Oh my god, excusez, je suis revenue à la vie. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, il fallait que je donne ma note. C'était bien bon, mais je pense que j'aime mieux un apéro spritz tout seul puis une margarita tout seul. Fait que je donne un comme 7 sur 10. Ça va être ça. Ma note finale! Cheers!
Chin, chin! Donc, Jess, de quoi me parles-tu aujourd'hui?
Ben, aujourd'hui, je me suis gâtée. Ben, cette semaine, en fait. Je me suis gâtée parce que, ben, c'est la semaine de mon anniversaire! Alors, je voulais me faire un petit épisode un petit peu plus le fun. C'est sûr qu'on va parler, malheureusement, de décès absolument tragiques. Mais c'est une petite curiosité morbide qui ressemble un peu au true crime, mais qui n'est pas du true crime vraiment. Ben, en fait, il n'y a pas de crime, là. Pas vraiment. Dans tous les cas, vous allez comprendre un petit peu pourquoi ça me passionne, pourquoi ça me fascine. Puis si jamais c'est pas le genre de sujet qui vous intéresse, on se retrouve la semaine prochaine pour un cas plus normal dans le classique de notre style. Les parcs d'attractions. Peu importe la raison pour laquelle on visite un parc d'attractions, reste que tous les visiteurs ont quand même un but en commun qui est de s'amuser. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter une compilation de cas dans lesquels il y a des gens qui étaient en quête de sensations fortes, qui ont payé le prix très très fort. Pour certains, il y en a qui ont même payé le prix de leur vie. Mes sources pour l'épisode d'aujourd'hui sont les Archives de Montréal, le Journal Métro, MapQuestTravel.com, le Wall Street Journal, Britannica.com, Le Devoir, CBS News, YouTube, Wikipédia et Spacing.com. Avant qu'on entre dans le vif du sujet et que je vous parle de vrais accidents, j'ai envie de vous faire un petit peu le résumé de l'origine des parcs d'attractions. Est-ce que vous saviez que le premier manège, il a été conçu en Russie? C'est en s'inspirant d'une espèce de glissade sur neige qui était super populaire et lucrative qu'un ingénieur russe qui a inauguré le tout premier manège en 1784. Évidemment, le premier modèle est vraiment loin des manèges classiques auxquels on est habitué à l'ère moderne aujourd'hui, de ça ressemblait plus à ce dont ça s'inspire, une bonne vieille glissade. D'où le nom, les montagnes russes. Bien évidemment, l'invention, ça a créé un énorme engouement et ça a été réadapté dans le 19e siècle en France, aux États-Unis. Et d'année en année, les modèles se sont perfectionnés et les adeptes de sensations fortes sont rapidement devenus accros. Il y a des investisseurs, des ingénieurs qui se sont rapidement mis à conceptualiser des manèges de plus en plus grands, de plus en plus terrifiants et rapidement, il y a des corporations telles que Six Flags qui vont être créées afin de permettre à un maximum d'amateurs de sensations fortes, ben, de s'envoler. Parmi les corporations les plus populaires, on compte Universal, SeaWorld, Merlin Entertainment et bien évidemment Six Flags. Justement, parlant de la compagnie Six Flags, elle a vu le jour en 1957 au Texas, peu après la création du Great Southwest Corporation. L'investisseur Angus G. Wynn, accompagné de plusieurs autres membres influents, va inaugurer le tout premier parc d'attractions Six Flags en 1960, toujours au Texas. Les Six Flags dont on fait mention dans le nom font en fait référence aux drapeaux des différentes nations qui ont gouverné le Texas, soit l'Espagne, la France, le Mexique, la République du Texas, les États-Unis d'Amérique, et les États confédérés d'Amérique. Je sais pas pour toi ma bonne chum, mais moi, avant de faire ces recherches-là, j'avais aucune espèce d'idée.
Surprenamment, je le savais, ça venait d'où les montagnes russes. Ouais, je me rappelle, au primaire, une prof me l'avait dit, mais les Six Flags, j'avais aucune idée de quel six drapeaux. Ouh, j'ai parlé en franglais vraiment pur, dur. Mais j'avais aucune idée, les six drapeaux, c'est des drapeaux de quoi? Fait que tu me l'apprends?
Ben, je me l'apprends moi-même aussi, fait que tant mieux. Quelque chose qu'on n'avait pas besoin de faire de recherche pour savoir par contre, c'est que la compagnie américaine Six Flags, elle a rapidement gagné en popularité et en notoriété et qu'il y a plusieurs pays dans le monde qui peuvent bénéficier des parcs d'attractions Six Flags, dont le Québec. La ronde située à l'île Sainte-Hélène, à Montréal, a été inaugurée en 1967 dans le cadre de la fameuse et historique exposition universelle qu'on appelle affectueusement l'Expo 67. En 2001, la ville de Montréal signe avec l'entreprise un bail emphytéotique. C'est quoi ça, un bail emphytéotique? C'est un bail immobilier d'une très longue durée, le plus souvent compris entre 18 et 99 ans. En gros, là, la ronde, elle est là pour rester. Au grand dam du Parc Belmont, anciennement le parc d'attractions fétiche de tous les Montréalais. Le Parc Belmont, localisé à Cartierville, à Montréal, ouvre ses portes en 1923. C'est quatre Québécois qui vont être à l'origine du projet, s'inspirant de deux autres parcs assez populaires dans la métropole. Un petit fait divers assez intéressant, en 1956, le directeur du Parc Belmont était nul autre que le père de Pierre-Éliott Trudeau, Charles-Émile Trudeau. Pour vous situer sur la carte québécoise, le parc était situé tout juste à côté du pont La Chapelle qui relie le quartier Hunstick-Cartierville à celui de Chemédé à Laval. Et le parc en soi, il existe encore, bien que toutes les installations n'y soient plus. Et à ce jour, la Ville de Montréal, sur leur site, décrit ce lieu comme étant un lieu ou la station privilégiée pour se détendre, profiter des attraits de la nature ou pratiquer des loisirs en plein air. Fin de la citation. Mais... qu'en est-il de l'époque où ce parc était un lieu privilégié pour tout, sauf se détendre? Bien que le parc ait officiellement ouvert ses portes en 1923, c'est après le crash de 1930 que le parc a officiellement commencé à se développer pour devenir un parc d'attractions plus classique. Entre autres, ils vont inaugurer les manèges cultes Le Cyclone, un manège d'une hauteur de 70 pieds qui ressemble un peu à une version antérieure du monstre, toujours fonctionnel au parc La Ronde. Une maison hantée super populaire, Le Tapis Magique, qui est une attraction de type pendule, un peu comme le Vertigo à La Ronde. Et la souris folle, qui est un de ces manèges qui tourne les coins tellement ronds qu'on a la sensation de tomber dans le vide. Je sais pas pour vous, mais moi, ces manèges-là, je ne peux pas.
Mais je trouve ça vraiment extraordinaire, moi, que le monstre soit encore là, à la ronde. C'est juste, ça me fait tellement peur. Je le regarde de loin, puis je suis comme... un manège en bois qui date... Tu sais, je sais qu'ils maintiennent, puis que c'est très ardu leur travail. Bravo à eux, bravo aux travailleurs de la ronde, puis tout. C'est pas ça que je veux dire. Mais un manège en bois qui est là depuis tellement longtemps... qui prend dans le vent. Moi, ça me fait peur. Puis j'adore les manèges, je les fais tellement souvent, le monstre, là. C'est pas ça que je dis, mais comme... plus ça va, moins il me tend.
Je suis déjà restée pognée dedans.
Je pense que tout le monde a une histoire d'être resté pogné dans le monstre. On dirait que ce manège-là, tout le monde a déjà resté pogné dedans.
Tu veux que je rajoute dans le punch? C'était la première fois que je le faisais.
Ça, c'est encore pire.
Ouais. Mais c'est pas grave, là, j'avais ma mère, mon père qui m'ont full conseillé, puis après, je suis retournée plein de fois. Fait que... tant mieux. Mais comme tu dis, chaque fois que j'y vais, on dirait qu'il y a toujours plus de poutres de métal. Fait que ça veut dire qu'il y a une poutre de bois qui était plus sécuritaire. Puis considérant les intempéries qu'il y a à Montréal, la température, comment est-ce que du bois survit autant? Ah, non, tu vois, moi aussi, je le regarde de loin.
Si vous travaillez à la ronde pour ce secteur-là, parlez-nous, s'il vous plaît. On est vraiment intéressés à savoir comment tout se passe. Bref.
Ouais, l'entretien, surtout pendant l'hiver, c'est quelque chose que je me suis toujours demandé. Comment vous entretenez ça pendant l'hiver pour que ce soit sécuritaire pendant l'été? Ça doit être dans les DM. Merci. De retour au parc Belmont, les attractions du parc ne s'arrêtent pas qu'au manège. Les visiteurs peuvent aussi profiter de spectacles de voltige, de casse-coups, de cracheurs de feu, à valeur de sable. Il y avait aussi des spectacles de personnes de petite taille, autrement appelés des spectacles de nains, et des spectacles de femmes à barbe. Ça, c'est vraiment... je le dis en guillemets, là, parce que j'ai eu une petite difficulté avec ce concept-là, mais on peut voir que c'était à une toute autre époque. Je pense que les humains devraient jamais être présentés comme des bêtes de cirque, les animaux non plus, mais c'est une autre discussion pour un autre épisode. On est bien content que les choses aient changé. Parlant de choses qui sont arrivées dans l'histoire qui ne peuvent pas être changées, le destin du parc Belmont s'est officiellement scellé entre 1977 et 1979. Une petite fille attend patiemment de monter à bord du Parachute Troopers, qui est un manège dans lequel il y a des petites navettes qui tournent en rond en même temps de gagner de l'altitude. Toujours en rond, là, c'est comme une espèce de carrousel, mais qui est dans un angle qui permet aux passagers d'avoir une espèce de kick d'adrénaline en les faisant comme monter vers le ciel et redescendre. Alors que la petite fille, elle attend son tour, il y a une poutre qui va se détaché du manège et qui va atterrir directement sur la petite fille. Il est quasi impossible de trouver plus de détails sur cet incident-là, donc je peux pas confirmer ou infirmer le décès de cet enfant. Tout ce que je sais, c'est que la population a été grandement choquée, avec raison. Mais, quelques temps plus tard, le Tilt-A-World, qui, selon les souvenirs de mon papa, c'était un autre espèce de manège en bois qui tournait les coins ronds, a déraillé avant de s'écraser dans un kiosque tout près, blessant grièvement deux personnes. Le parc a à peine le temps de se remettre d'un de ces incidents avant qu'un wagon de la souris folle déraille de nouveau et emboutisse un visiteur. On pourrait croire que j'ai terminé avec la liste des accidents mortels ou très graves pour le parc Belmont, mais un adolescent qui est en train de profiter d'une belle journée au parc, elle monte à bord du manège Bullet et elle est brutalement éjectée du manège lorsqu'il y a une porte qui s'ouvre malencontreusement. Ça fait 4 accidents tragiques, mortels et absolument dangereux en moins de 3 ans. Est-ce que le parc Belmont était toujours sécuritaire? Parallèlement, il y a plusieurs policiers qui se sont rendus au parc pour procéder à une espèce de descente. Là, les agents soupçonnaient de l'activité illégale, notamment en lien avec un jeu d'adresse non conforme. Et doucement, la réputation du parc Belmont devient bien, bien loin de ce qu'elle a jadis été. Avec l'ouverture de la ronde en 1967, le parc obtient le surnom le parc des pauvres et obtient de moins en moins de visiteurs. Mon papa, qui était un grand visiteur du parc Belmont, mais qui faisait partie de ceux qui préféraient la ronde dès son ouverture, a dit « La ronde, c'était plus propre, les manèges étaient plus beaux, plus gros. » Fait que, ben, tout le monde préférait y aller. Le parc Belmont va officiellement fermer ses portes en 1983 après 60 ans d'activité et 4 graves accidents à son actif. Un petit fait divers, notre fameuse ronde, elle a aussi plusieurs accidents à son actif, c'est juste qu'il y en a pas énormément qui impliquent des décès, donc on en a pas beaucoup parlé. Mais avant la fermeture du fameux boomerang, le boomerang a donné une espèce de frousse à deux jeunes de 12 ans lorsque leur harnais s'est détaché, mais ils n'ont pas été blessés, heureusement. En 2019, il y a deux nacelles de la grande roue qui s'emboîtent et il y en a une qui se revire à l'envers. Heureusement, encore, les passagers vont être secourus avant qu'un drame ne se produise. On va maintenant passer au mystère du Space Journey. On reconnaît la Chine pour plusieurs choses dans le monde moderne, mais certainement pas pour sa transparence. Un des régimes les plus mystérieux du monde, la Chine est au cœur de milliers de théories du complot et est considérée comme l'un des plus grands espions du monde. Assez ironique quand on prend en considération que la Chine est un pays extrêmement cachetier, on va le dire comme ça. Parlant de cacheterie, en 2010, au Echo Venture Valley Amusement Park situé en Chine, le drame se produit. La nouvelle attraction du parc, le Space Journey, qui a été inaugurée le 1er mai 2009, va prendre tragiquement la vie de plusieurs visiteurs qui étaient en quête d'adrénaline. Conceptualisé et complètement créé en Chine, le principe du nouveau manège est assez simple. On veut offrir à ses passagers la sensation de décoller tout droit vers l'espace. Selon le parc, c'est le sentiment qui se rapproche le plus de celui que ressentent les astronautes lors de leur mission. Le manège ressemble à une espèce de dôme dans lequel il y a 11 navettes qui sont accrochées et qui tournoient sur elles-mêmes à une vitesse assez impressionnante, merci. Pas besoin de vous dire que il y a de nombreux passionnés de sensations fortes ou d'astronomie qui se sont rués dans la file d'attente du Space Journey pour profiter de cette expérience unique. Pendant près d'un an, l'attraction atteint son but et attire de nombreux passagers courageux et surtout une très grande notoriété auprès de ceux-ci. Malheureusement, pour 16 passagers, le tout tourne au cauchemar un après-midi de 2010 alors que le manège est en marche. Les navettes se retournent sur elles-mêmes, mais à l'envers. Plusieurs témoins ont offert différentes versions aux journalistes, mais voici des témoignages offerts. Il y en a qui disent que les navettes, après s'être retournées, ont éjecté des passagers vers leur mort, tandis qu'il y en a d'autres qui affirment avoir entendu une explosion et avoir senti des odeurs de brûlé et avoir vu de la fumée. Dans tous les cas, l'incident du Space Journey coûte la vie de 6 passagers et blesse 10 autres individus. Est-ce que c'est une erreur humaine ou est-ce que c'est un défaut de fabrication? Les autorités chinoises, bien qu'elles aient fait plusieurs sorties dans les médias pour affirmer qu'il s'agissait d'une première dans l'entièreté du pays, n'ont pas offert plus d'amples détails sur les causes de l'accident et n'ont jamais reparlé du Space Journey.
Ça vient un peu chercher le concept de Mission Space à Walt Disney, c'est juste que le manège n'est pas fait de la même façon, mais c'est une simulation aussi d'aller dans l'espace. Il y a quelqu'un qui a fait une crise cardiaque d'ailleurs là-dedans. Il faut comme que tu fasses vraiment attention quand tu vas là, parce que c'est difficile pour ton cœur, évidemment. Là, en tout cas, dans le temps, quand moi, j'étais enfant, il y avait des niveaux que tu pouvais aller. Je sais pas si c'est encore pareil, là, mais... Ouais, non, moi, j'ai je l'ai fait une fois, puis non, c'est pas ma tasse de thé.
tu vois, moi non plus, j'aurais pas été... Ça va, j'aurais pas... Ouais.
Sauf que celle à Disney, par exemple, t'es dans une machine au sol qui reste au sol. C'est vraiment juste une simulation de quand tu décolles, mais tu vas pas dans les airs pour de vrai, là. C'est vraiment... tu restes là. Tandis que celle que tu viens de me raconter, je serais jamais embarquée dedans, for sure.
Ouais, ça avait l'air assez intense. Puis, tu sais, j'ai juste vu des photos, mais j'arrivais pas comme à comprendre comment ça pouvait vraiment monter dans les airs. Fait que, est-ce que ça montait dans les airs? Est-ce que ça tournait juste vraiment vite? Non, c'est rossé. Tout ce que je sais, c'est que, ça s'est retourné à l'envers. Ça devait être absolument terrifiant pour les passagers. Puis, ça doit être une manière terrible de mourir.
Oui, puis surtout en plus que le gouvernement, puis les autorités chinoises par après, ils ont juste pas jamais reparlé de ça, fait qu'on en a comme pas plus de détails, c'est mystérieux.
Le mystère de la Chine. Là, je vous ai fait une petite section qui s'appelle « Mention déshonorable ». Donc, mention pas honorable. Donc, mauvaise mention, à l'envers, édition. Édition à l'envers. Mon Dieu, c'était tellement dit avec une syntaxe anglaise. On voit que ce titre-là, je l'avais écrit... On voit que ce titre-là, je l'avais écrit en anglais dans mes notes. Je m'excuse, ça va être la traduction pour aujourd'hui.
T'es correct, même notre premier ministre utilise des mots anglais quand il parle à l'Assemblée nationale pour dire aux gens que c'est pas cool de parler en anglais.
Puis il s'en rend même pas compte! Il est genre, hein? Pourquoi vous riez de moi? Qu'est-ce que j'ai dit?
Je sais que c'est pas la première fois que j'en parle, mais c'est tellement drôle, cette vidéo-là. En tout cas, si vous connaissez pas cette vidéo-là, vous devriez vraiment aller le regarder parce que c'est hilarant à voir.
Vraiment. L'un des seuls accidents mortels de montagne russe survenu dans un parc d'attractions intérieur, s'est produit au Canada, en Alberta, en 1986. Le Mindbender était surtout reconnu pour ses boucles et sa vitesse. N'importe quel amateur de sensations fortes y serait comblé. Sauf que le matin du 16 juin 1986, il y a un employé un petit peu fatigué qui va affirmer que le manège est sécuritaire après avoir fait ses vérifications quotidiennes. Vérifications qui plus tard vont être questionnées. La vie de 18 passagers va changer à tout jamais alors que le manège se dirige vers sa troisième boucle et qui va s'arrêter au beau milieu de la boucle, coincé. Les 18 passagers sont momentanément coincés dans cette position, la tête à l'envers, au moment où le wagon commence à refaire marche arrière. Le wagon va être brutalement stoppé dans sa chute par une poutre qui était pas trop loin du manège et il y a 3 personnes qui vont perdre la vie sur l'impact. Il y a 15 autres passagers qui vont être grièvement blessés et la cause de l'accident va rapidement être attribuée à une vis manquante sur l'une des roues du wagon s'ayant écrasée. Le manège a été fermé pendant plusieurs mois, notamment pour ajouter un système de sécurité qui empêche les wagons de faire marche arrière. Et, comme je vous ai dit, ça a fait une espèce de tollé dans les médias parce qu'on a vraiment, franchement, questionné le travail du vérificateur ce matin-là. Le Bell's Amusement Park en Oklahoma a vécu quelques controverses jusqu'à leur fermeture complète en 2006. Lorsqu'il remplace le même mécanisme dont je viens de vous faire mention, celui qui empêche un wagon de faire marche arrière sur les rails d'un manège, et qui utilise un modèle de bas de gamme pour économiser des sous, ils se doutent pas qu'ils viennent de signer l'arrêt de mort d'un jeune adolescent en quête de sensations fortes. Un beau jour de 1987, il y a un des wagons qui atteint le sommet du manège et qui fait marche arrière et le wagon s'aboutit violemment dans un autre wagon duquel un jeune de 14 ans va être éjecté. Et il est décédé sur le coup. C'est à cause d'un mécanisme qui a été remplacé délibérément par les propriétaires du parc que ce jeune homme a perdu la vie. Maintenant, je vais vous parler du cobra dont le venin a presque tué à 2 reprises. Le prochain incident, dont je vais vous faire mention, il s'est produit au Danemark en 2022. L'une des attractions les plus populaires du parc Tivoli Freeheden se nomme le cobra. Pour ceux qui ont déjà été à la ronde, c'est vraiment le même type que le vampire. C'est un manège un peu plus moderne duquel les passagers sont assis de manière à ce que leurs jambes comme pendent dans le vide. On appelle ce genre de manège un manège inversé parce que les passagers sont attachés sous les rails plutôt qu'être assis au-dessus. Le 14 juillet 2022, alors que le manège est en marche et qu'il approche la fin de son périple, il y a 2 sièges à l'arrière du wagon qui vont se détacher et l'entièreté du wagon se bloque sur l'impact. Tous les passagers sont donc suspendus sous les rails pendant un bon moment, alors qu'ils doivent endurer les cris de douleur d'un enfant de 13 ans qui s'est affreusement amoché la main et qui doivent regarder les yeux vitreux d'une jeune de 14 ans qui est décédée sur l'impact. Il s'agissait du 2e grave accident à survenir dans le Cobra, le premier s'étant déroulé en 2008 et ayant gravement blessé 4 passagers. Les autorités ont donc pris la décision de fermer de manière permanente le manège à la suite du décès de la jeune adolescente. Le prochain topo que je vous fais s'appelle le Big Dipper à la 2. C'est impossible pour moi de vous faire une compilation des pires accidents de montagne russe sans parler du pire accident de l'histoire des États-Unis. On est en 1930 à Omaha, au Nebraska, et le manège Big Dipper est reconnu de tous pour sa rapidité, ses grandes chutes vers le néant, et si j'avais à le comparer à un manège connu, je le comparerais au monstre. Sauf que pour la part du Big Dipper, les wagons sont tous attachés ensemble au lieu d'être isolés et d'y aller un à la fois. Ce jour fatidique, les quatre voitures sont complètement remplies alors que s'apprête à descendre la première pente, et c'est à ce moment-là que le système de freinage se détache d'une des roues du wagon et que les roues du même wagon se bloquent, ce qui va faire en sorte que le wagon déraille avant de faire une chute de 10,7 mètres, entraînant avec lui les trois autres voitures attachées au premier wagon. Il y a des dizaines de passagers qui sont blessés et coincés sous le manège toujours en marche, après avoir fait une chute de 35 pieds. Pouvez-vous imaginer l'horreur? Il y a 19 personnes qui s'en sortent avec des blessures, certaines mineures, certaines beaucoup plus majeures, et il y a 4 personnes qui malheureusement vont perdre la vie, faisant de cet incident le pire accident survenu aux États-Unis. Même presque 100 ans plus tard, le Big Dipper garde sa première position dans le rang des accidents les plus mortels. Les amateurs de théorie du complot se sont régalés en 1972 lorsqu'un accident survenu à Londres marque l'imaginaire et obtient même le titre du pire accident de montagne russe de l'histoire et que le manège porte le nom de Big Dipper. Considéré comme l'attraction numéro 1 du parc Battersea à Londres, le Big Dipper il est un manège en bois comme pas mal le même Big Dipper de 1930 et il est reconnu pour ses grandes chutes et sa vitesse. Dès son inauguration en 1951, il y a de nombreux problèmes techniques qui surviennent. Il y a quelques semaines après son ouverture, un wagon qui déraille et qui s'emboutit tout près d'un autre wagon, dans lequel il y avait déjà des passagers attachés, mais au moins ils n'ont pas été blessés. En 1968, il y a une autre collision, encore entre deux wagons, et ça va briser le bras d'une passagère. Il y a personne par contre qui était prêt pour la tragédie qui a pris place cet après-midi du 30 mai 1972. Alors que 30 passagers montent à bord du Big Dipper qui entament la montée vers la première pente, commencent plutôt leur chute à l'envers. La vitesse avec laquelle le wagon chute cause un déraillement, ce qui va éjecter automatiquement les 30 passagers. Il y a 5 enfants qui vont perdre la vie sur l'impact et il y a 13 autres passagers qui vont être sérieusement blessés. Les propriétaires du parc d'attractions et l'ingénieur lui-même du Big Dipper vont être accusés d'homicide involontaire avant d'être acquittés par le tribunal. Le manège a bien évidemment ensuite été fermé et l'accident a engendré une sérieuse perte de revenus pour le parc et les propriétaires ont officiellement fermé les portes d'accès en 1974, seulement 2 ans après la tragédie, qui encore à ce jour est reconnue comme la pire tragédie de l'histoire. Je vais conclure cet épisode avec 2 petits cas que je pourrais résumer ainsi. Quand les oublis du personnel coûtent une vie. Des choses auxquelles on fait aveuglément confiance quand on se rend dans un parc d'attractions, ben c'est la solidité des harnais ou à la formation du personnel, à son attention aux détails. Après tout, un faux mouvement pourrait coûter la vie d'une personne innocente. Et en 2005, le parc Adventureland dans Long Island est reconnu comme un parc sécuritaire dans lequel il s'est jamais rien produit, mais tragiquement, au début de la saison estivale, il y a une erreur de communication qui va entraîner un employé à se rendre sous les rails du Ladybug alors qu'il est toujours en marche, elle va être emboîtée et automatiquement tuée. Un événement qui rappelle tragiquement celui survenu à la ronde en juillet 2012. On se rappelle qu'Hubert Fortin a été mortellement happé par l'un des wagons du manège du vampire alors qu'il s'y était rendu pour faire l'entretien par erreur. Quelques semaines après la tragédie du Ladybug, par contre, le malheur va refrapper à la porte du parc Adventureland. Alors que plusieurs passagers embarquent à bord du Top Scan, un manège qui effectue le mouvement d'une balançoire alors que les passagers tournoient également sur eux-mêmes, c'est comme une copie conforme du manège le Manitou à la ronde, il y a le personnel qui fait son tour de vérification, mais qui omet de serrer convenablement le harnais d'une passagère et après le premier coup de pendule, elle va être éjectée et faire une chute de 25 pieds avant d'atterrir sur une voiture dans le stationnement du parc d'attractions. Évidemment, elle est morte sur le coup.
C'est violent.
Je sais.
J'ai rien d'autre à dire, je suis un peu bouche bée.
J'étais pareil quand j'ai fait mes recherches. Je pense que tu vas rester bouche bée pour le prochain psy. Le tout dernier incident dont je vais te faire mention aujourd'hui, Noémie, et à vous, mes bonnes chums de filles, mes bons chums de gars aussi, mes bons chums de non-binaires, tout le monde, c'est un cas qui va peut-être titiller votre mémoire. C'est une affaire qui a fait le tour des réseaux sociaux en 2022. On va se transporter en Floride, à Orlando. On est en mars 2022 et il y a un jeune adolescent qui prend place à bord du Orlando Free Fall. Le principe du manège est assez simple. Les passagers sont attachés sur une grosse poutre électrifiée qui monte vraiment très haut. Et une fois arrivés tout en haut, les passagers chutent à toute vitesse vers le sol. Pour vous donner une espèce de comparatif encore avec la ronde, c'est le même principe que l'orbite. Le jeune adolescent qui s'assied dans le manège est un peu plus en chair que l'autre passager qui s'était assis à sa place au préalable. Et il éprouve un petit peu de difficulté à bien sécuriser son harnais et il interpelle l'employé en service. Employé qui est en train de discuter avec une jeune fille qui, selon les spéculations, y trouve assez de son goût. Le jeune de 14 ans, se faisant complètement ignorer par le membre qui était supposé assurer sa sécurité, va décider d'ajuster le harnais par lui-même. Il va ajouter du lousse, comme on dit en bon québécois, et ce lousse-là va lui coûter la vie. Il y a des images absolument terrifiantes et très très troublante du jeune de 14 ans chutant vers sa mort qui vont être partagées sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. La toile s'enflamme et avec raison là, parce qu'on peut clairement voir que le harnais est tout sauf sécuritaire juste avant la mise en marche du manège. Et pire encore, on voit bel et bien l'employé qui était supposé assurer sa sécurité, comme je l'ai dit, être en train de discuter avec une jeune femme. Depuis ce jour-là, le Orlando Free Fall a été fermé de manière permanente. Il s'agissait d'une des attractions les plus hautes en son genre. Et qu'est-ce que c'est ça? J'ai fini ma compilation, ma bonne chum.
J'ai tellement aimé ça, on dirait que ça a fait du bien d'avoir un épisode différent comme ça.
Ça a fait du bien à faire, fait que vous nous direz dans les commentaires si vous avez aimé ça. Écoutez, moi je pourrais en faire un autre sur les croisières, sur les accidents d'avion. Ah ouais, ma bonne chum, on pourrait y aller avec une nouvelle petite série. Fait que dites-nous dans les DM si ça vous plaît. Puis sinon, ben la semaine prochaine, on se retrouve pour parler de quoi?
La semaine prochaine, on se retrouve pour un cas un petit peu plus « classique true crime », entre guillemets. C'est un cas qui a été extrêmement médiatisé et qui l'est encore à ce jour et qui n'est pas terminé, mais malgré le fait que ce n'est pas encore terminé, il y a tellement de détails à donner. Mais ouais, je vais vous laisser là-dessus pour la semaine prochaine. Je vous laisse dans le néant complètement. J'ai pas de mots qui me viennent plus, là. Regardez, on blâme la commotion cérébrale.
Alors, on vous inclut dans notre brain fog et soyez dans le néant jusqu'à la semaine prochaine à
Crémy Cocktail.
Cheers, guys!
Chin, chin!